tente depuis quelques heures. Il est 22h. On s'est bien couvert pour pas avoir froid. Et là, nous partons à la recherche
De ce qu'ici ils appellent, enfin en anglais, les Northern Lights, à savoir les aurores boréales.
Donc on va monter dans la voiture, on va faire quelques kilomètres pour fuir la pollution lumineuse et essayer de voir ces éclairs verts qui viennent de l'énergie du soleil.
Parce qu'en fait, pour voir les aurores boréales, on nous a bien dit qu'il fallait qu'il n'y ait absolument pas de lumière, donc on va aller se perdre dans la campagne à 20-30 km de Reykjavik et puis on va essayer de voir ça.
C'est parti.
C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI. C'est pas du vent. Anne-Cécile Bra.
Ce soir-là, malgré une longue attente, nous ne verrons pas d'aurore boréale. Mais nous ne sommes pas venus pour cela. Nous sommes venus pour comprendre comment l'Islande et ses 330 000 habitants parviennent à vivre avec une électricité d'origine 100% renouvelable, la moins chère d'Europe. La réponse se trouve dans la géologie très particulière de ce pays.
Nous avons foré quelques puits en Islande dans ce qu'on appelle les températures supercritiques, c'est-à-dire des températures aux alentours de 370 degrés. Il y a maintenant un important projet d'exploration pour aller encore plus loin, pour forer dans le magma, ou plus exactement, près du magma. Des expérimentations ont déjà été faites dans le nord du pays et ils ont rencontré des problèmes à seulement 2200 mètres de profondeur en réalisant qu'ils étaient en train de forer dans le magma. Donc vous voyez, le magma peut être parfois très près de la surface.
So magma can be very shallow.
Si l'Islande abrite plus de 200 volcans, dont 130 en activité, c'est parce qu'elle est située à cheval entre deux plaques tectoniques, la plaque américaine et la plaque eurasienne, qui s'écartent d'ailleurs chaque année de 2 cm. Cette situation géographique particulière se voit et se sent. Des fumées à l'odeur de soufre jaillissent du sol dans des paysages volcaniques à l'horizon infini. Les sources d'eau chaude, plus de 600 réparties dans le pays, expliquent aussi pourquoi l'Islande a décidé de miser sur la géothermie, la chaleur de la terre. Pour comprendre cette stratégie, nous avons rendez-vous avec les autorités locales à Reykjavik, la capitale. La traduction est assurée par Gérard Lemarquis.
Je suis Yngvi Már Pálsson, directeur de cabinet au ministère de l'Industrie et de l'Innovation.
Quelle est la stratégie aujourd'hui du gouvernement islandais en matière d'énergie renouvelable, en termes de développement à l'intérieur du pays ?
La stratégie du gouvernement consiste à augmenter la part des énergies renouvelables. Aujourd'hui, toute l'électricité produite est une énergie renouvelable, d'une part la géothermie, d'autre part l'hydroélectricité.
Dans quelle proportion ?
Les proportions sont de 70% pour l'hydroélectricité et 30% environ pour la géothermie, mais il faut savoir que nous avons commencé à pratiquer l'hydroélectricité il y a un siècle, alors que les premières expériences en géothermie ne datent que d'une cinquantaine d'années. 99% des maisons en Islande sont chauffées avec une énergie renouvelable, 90% grâce à la géothermie, et les 9% restants avec de l'électricité produite elle aussi avec une énergie renouvelable. Et cela ne s'est pas fait tout seul. Depuis 1970, une politique volontariste des gouvernements a consisté à accroître la part de la géothermie qui n'était vers 1970 que de 50%. Dans le chauffage des habitations.
Là, vous nous avez présenté un schéma où on voit en effet que depuis les années 70, la part des énergies fossiles qui était de 50% est passée à quasiment 0% en 50 ans. Donc aujourd'hui, 100% des énergies en Islande sont renouvelables. Ça sert à tout, vous disiez, ça sert à chauffer les maisons, mais aussi à fabriquer de l'électricité.
Anthony Lorcan est...
Les énergies renouvelables servent à produire de l'électricité, à chauffer les maisons, et les autres utilisations sont les piscines, 4%, faire fondre la neige, 4%, l'industrie, 2%, l'aquaculture, 4%. Les serres, 2%.
Parce que sinon, le climat est tellement difficile que c'est difficile de cultiver quelque chose en dehors des serres.
Oui, en Islande, il est difficile de faire pousser les fleurs et les légumes en pleine terre, alors que sous serre, grâce également à un éclairage, on peut avoir toute l'année des légumes, des fruits et des fleurs.
Alors on a l'impression qu'il y a une espèce de course en avant depuis les années 70 avec cet appel à faire venir des investisseurs ici dans votre pays. Ça a commencé par les industries de l'aluminium et aujourd'hui vous avez une stratégie qui est d'attirer de plus en plus d'investisseurs. Où en êtes-vous dans cette stratégie ?
La situation de l'Islande est la suivante. 80% de l'électricité est utilisée par l'industrie grosse consommatrice d'énergie, à savoir trois usines de transformation de l'aluminium, deux usines de ferro-silice. Telle est la situation depuis 1966. Mais la stratégie des pouvoirs publics ces dernières années a consisté à élargir le nombre et la qualité des utilisateurs. Ainsi, s'ajoute à l'industrie des data centers, par exemple.
L'idée, c'est de diversifier et d'attirer de plus en plus d'entreprises étrangères ici en Islande qui pourraient justement venir produire avec de l'énergie propre. C'est ça votre stratégie ?
Oui, nous accueillons favorablement les investisseurs étrangers, en particulier depuis la terrible crise financière que nous avons connue en 2008. Et nous favorisons l'implantation d'investisseurs, qu'ils soient étrangers ou islandais. Ceci dit, les possibilités d'accroissement de l'utilisation de l'énergie ne sont pas infinies. C'est pourquoi nous discutons au Parlement d'un accord cadre destiné à préciser exactement les possibilités de développement de ces énergies renouvelables.
L'un des objectifs que c'est fixer le gouvernement islandais, c'est d'être 100% renouvelable d'ici 2050, c'est-à-dire ne plus émettre du tout de CO2. Or, la géothermie, ça émet du CO2. Donc, comment est-ce que vous comptez concilier ces objectifs ?
Oui, c'est exact. Il y a émission de dioxyde de carbone dans la géothermie, mais justement, nous essayons de capturer ce gaz à effet de serre pour produire du méthanol, et qui est également une énergie propre. Il y a également une expérimentation de enfouir le carbone sous la terre pour transformer en calcaire.
Et vous avez cet objectif aussi de développer un câble qui partirait de l'Islande et qui irait jusqu'au Royaume-Uni pour fournir de l'énergie propre à l'Europe. Où en êtes-vous de cette ambition ?
Il s'agit d'un investissement extrêmement lourd et compliqué et qui aura des conséquences financières. Comment pouvoir financer le projet ? Quelle influence une telle opération aurait sur la société islandaise ? Quelles conséquences environnementales ? Et enfin, d'où viendrait l'électricité ? portée, produite, qui serait exportée.
Donc là, c'est vous qui posez les questions que tout le monde se pose justement, alors que vous êtes censé avoir les réponses.
J'étais à Londres hier, rencontrer des interlocuteurs pour discuter librement de la question, mais nous sommes encore loin de finaliser l'opération.
Tuc. On dit tac, tu
tac.
Tac. Pardon, pour dire merci, on dit pas tu, qu'on dit tac, tac.
Tac, tac.
La preuve du rayonnement international de l'Islande se trouve à quelques kilomètres de là, à l'Université des Nations Unies, où nous attend Ludvig Leorgson. Il est le directeur du programme de formation sur la géothermie.
Hello, pleased to meet you. Bonjour.
Bonjour, merci de nous accueillir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer où nous sommes ?
Well, you are at the United
Eh bien, vous êtes au programme de formation géothermique de l'Université des Nations Unies, qui est installé dans ce que nous appelons ici la Maison de l'énergie de l'Islande, où sont installées des institutions comme l'Autorité nationale de l'énergie et l'Iceland Geosurvey, un bureau d'études géologiques.
Donc il y a plein de salles de cours ici, plein d'étudiants, on va aller en voir tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste ce programme de formation à la géothermie ?
Well, this training program is a part of the United Nations University.
Eh bien, ce programme de formation fait partie de l'Université des Nations Unies, qui est sans doute l'une des institutions les plus méconnues des Nations Unies. Elle a été fondée en 1975 par Kurt Waldheim, le secrétaire général de l'époque. Quand elle a été créée, le gouvernement islandais était très motivé pour y participer. Nous avons été un pays en développement dans les années 70, mais maintenant, nous sommes sortis de cette catégorie et nous avons à cœur de contribuer à aider les autres pays qui en ont besoin. Quand l'université a été fondée, l'Islande a suggéré de créer un programme de formation sur la géothermie et sur la pêcherie parce que ce sont deux secteurs dans lesquels les capacités technologiques islandaises sont reconnues. Ces deux programmes existent donc depuis 1979. Mais en réalité, nous avons désormais quatre programmes, puisqu'il y en a un aussi sur la restauration des terres pour lutter contre la désertification, et un autre sur l'égalité des genres, un domaine dans lequel l'Islande veut aussi être sur le devant de la scène mondiale aujourd'hui. Donc nous avons quatre programmes, mais nous sommes le plus ancien.
En venant jusqu'à votre bureau, on a traversé un couloir où il y avait les photos de toutes les promotions depuis 1979. Vous avez de plus en plus d'étudiants, ça se voit sur les photos. D'où viennent les étudiants ?
They come from countries that are classified as developing countries.
Ils viennent de pays classés dans la catégorie des pays en développement. Et bien sûr, de pays qui ont des ressources géothermiques. Et vous savez, il n'y en a pas partout. Les meilleures ressources sont associées aux plaques tectoniques, le long de la ceinture de feu du Pacifique, du Grand Rift Est-Africain, en Méditerranée. Donc l'essentiel des étudiants viennent des pays qui sont dans ces zones. En Afrique de l'Est, il s'agit de l'Éthiopie, du Kenya, de la Tanzanie, de Djibouti. En Amérique centrale et en Amérique du Sud, nous avons le Salvador, le Guatemala, le Costa Rica, le Nicaragua et les pays qui longent la chaîne des Andes, comme la Bolivie, l'Équateur, le Pérou, la Colombie. En Asie, il y a l'Indonésie et les Philippines qui sont les deux pays qui ont les plus importantes ressources géothermiques au monde. Et puis, nous avons des pays comme les États-Unis ou le Mexique qui sont bien sûr pas en développement. Donc, ils peuvent quand même envoyer des étudiants, mais ils ne sont pas pris en charge par le gouvernement islandais. Nous sommes un programme ouvert, mais les bourses sont réservées aux étudiants des pays en développement.
Alors, comment ça se passe justement pour un étudiant de Djibouti, par exemple, qui vient étudier ici à Reykjavik? Est-ce que vous l'aidez financièrement?
We cooperate with institutions
Nous coopérons avec les institutions et les universités des pays où nous savons que la géothermie peut jouer un rôle important. Donc nous contactons ces établissements, puis nous allons visiter leur pays pour évaluer le potentiel sur place. Et si nous sentons que nous pouvons avoir un impact, nous les invitons à nous proposer des candidats qui pourront venir se former ici, en Islande. Au fond, nous pouvons dire que les candidats ont deux profils. Ce sont soit des géologues, soit des ingénieurs. Ensuite, nous proposons différents types de formations. Notre programme basique, qui s'étend sur 6 mois, est très dense. Vous pouvez découvrir la géologie thermique, l'exploration géophysique, la chimie des fluides thermiques, l'ingénierie des gisements ou la fonctionnalité des systèmes géothermiques. Il y a aussi tout ce qui est développement, comme construire et entretenir des centrales électriques. Et puis le forage géothermique aussi, bien sûr, est très important, parce que si vous ne savez pas forer, vous ne pouvez rien faire.
Est-ce que l'on peut aller rencontrer des étudiants ?
Oui, comme je vous l'ai dit, la plupart d'entre eux viennent d'Afrique, mais malheureusement, aucun d'entre eux ne vient d'Afrique francophone. Si vous étiez venu dans 15 jours, vous auriez pu rencontrer notre nouvel étudiant de Djibouti. C'est une histoire de chance, ou plutôt de malchance.
C'est comme ça, c'est la vie. Donc, on y va, on va les rencontrer.
Hello, Zekla. Hi. I have guests for you here.
Okay. Hello.
Hi.
Hi.
Zekla.
I'm Anne-Cécile.
Ah, okay. Nice to meet you. Hi.
Do you speak French?
No.
No. Ah, vous ne parlez pas français. Dommage, alors on va le faire en anglais. D'où venez-vous?
I am from Kenya.
Je viens du Kenya.
Et donc au Kenya, la géothermie est apparemment en pleine expansion.
Yeah, in Kenya we have,
oui, au Kenya, nous avons près de 600 mégawatts installés en géothermie pour les besoins en électricité. Et oui, yeah, le gouvernement a l'intention d'aller plus loin, car les prospections sont encourageantes. Ils ont prévu d'aller jusqu'à au moins 10 000 mégawatts dans la vallée du Rift.
Qu'est-ce que vous êtes venu apprendre ici?
Je suis d'abord venu une première fois en 2010. C'était mon premier séjour d'études longues sur la géothermie et c'était passionnant parce que je suis une scientifique spécialiste de l'environnement. Je devais apprendre tous les aspects de la géothermie, toutes les techniques. C'est très important pour mon travail parce que je dois avoir une vision globale de la technologie pour donner des conseils s'il y a des problèmes environnementaux.
Alors justement, quels sont les risques environnementaux en lien avec la géothermie ?
The biggest outcome is the power plant which supplies electricity.
Les conséquences les plus importantes viennent des centrales électriques. Elles n'émettent pas de fumée, mais de la vapeur qui est souvent polluée par des substances chimiques qui proviennent des profondeurs de la Terre. Elles peuvent affecter la qualité de l'air et c'est ce que vous devez examiner en priorité quand vous aménagez un champ de forage. Donc, mon doctorat porte principalement sur ces enjeux de la qualité de l'air. Je fais des recherches sur les gaz qui s'échappent parce que certains d'entre eux ne peuvent pas être condensés durant la conversion de l'énergie ou réinjectés dans la terre. Donc, ils s'échappent dans l'air avec la vapeur. Il y a du dioxyde de carbone à un niveau très bas comparé à la pollution générée par les énergies fossiles et du sulfure d'hydrogène. Je m'intéresse plus particulièrement au sulfure d'hydrogène qui peut affecter les écosystèmes. Par exemple, le sulfure peut créer des pluies acides qui abîment la végétation ou affecter les humains s'ils restent trop longtemps exposés. Mais des études ont prouvé que les taux de concentration ne sont pas assez élevés pour avoir des conséquences sur la santé des hommes. En revanche, aucune étude n'a été faite sur la végétation et c'est sur cela que je travaille.
Et vous restez ici combien de temps ? Quelle est la suite de vos études?
À la fin de mon doctorat, je dois retourner dans mon pays pour travailler, pour partager mes connaissances. Je vais rentrer chez moi, dans l'entreprise de géothermie où je travaillais comme scientifique spécialiste de l'environnement. Elle est en plein développement et je vais reprendre mon poste.
Merci beaucoup. Thank you very much.
You're welcome. Yeah, thank you very much too.
Il est temps pour nous de quitter la capitale, de sortir des bureaux pour partir à la découverte des paysages presque lunaires et des sols fumants. Le temps pour vous d'écouter le flash d'info et pour nous de monter dans la voiture. A tout de suite.